Bien, je vais vous présenter notre conférencier du jour pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de Jacques Lévinaire, qui est né en 1943. Il est docteur en troisième cycle et docteur en sciences physiques. Son statut actuel, il est directeur scientifique de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, et où il est aussi, bien sûr, professeur. Sa carrière, c'est une carrière de chercheur. Il a été chercheur aussi dans des universités américaines, chercheur au CNRS, chargé de cours de physique du solide à partir de 1969 à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, chargé de recherche au CNRS, et depuis 1973, donc professeur à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Son champ de spécialité, ce sont les propriétés électriques de la matière, métaux isolants, diélectriques, l'imagerie, les capteurs et les télécommunications. Il a déposé un certain nombre de brevets, dont un certain nombre ont fait l'objet de développement industriel. Il est lauréat de l'Académie des sciences en 1990, et ses publications comportent essentiellement des articles scientifiques dans des revues françaises et étrangères. Mais je signale un livre dont la date n'est pas indiquée sur mon document, « L'imagerie du corps humain » aux éditions de physique à Paris. Voilà, je lui donne la parole pour 50 minutes, et puis après, il y aura vos questions. Merci.
Bien, on va aborder ce matin un thème qui, au fond, intrigue probablement depuis l'enfance. On a tous eu l'occasion de constater que certains matériaux sont isolants de l'électricité. Par exemple, on prend un peigne. Si on s'amuse à l'introduire dans une prise de courant, ce que je ne vous conseille pas de faire quand même, mais vous ne sentirez rien. Si au contraire, vous prenez une épingle à cheveux en métal, vous l'introduisez dans une prise de courant, il se passe des choses éventuellement très désagréables, donc ne faites pas cette expérience, en tout cas pas telle que je viens de vous la décrire. Or, ces deux objets sont faits pratiquement des mêmes atomes. Pourquoi est-ce que dans un cas, l'électricité peut passer? Pourquoi est-ce que dans l'autre cas, elle ne peut pas passer? Voilà un petit mystère et on va essayer d'éclaircir cette question ce matin. Il faut revenir à l'atome. L'atome, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau autour duquel gravitent un certain nombre d'électrons. Les électrons qui gravitent autour du noyau ne gravitent pas n'importe où. Vous avez déjà eu des conférences qui ont décrit cet aspect. Vous savez que les électrons sont à des niveaux extrêmement précis par rapport au noyau. C'est ce qu'on appelle les orbites électroniques. Ces orbites sont parfaitement bien définies. Et elles sont tellement bien définies qu'on les utilise même pour faire des horloges d'une très grande précision, les horloges dites horloges atomiques. On va donc créer un atome en empilant autour du noyau un certain nombre d'électrons sur les couches autorisées à des énergies. Donc ici, on va avoir une première énergie, une deuxième énergie, et ainsi de suite. Plus l'atome est gros, plus il y a de couches électroniques et plus son rayon va devenir important. Si vous prenez un atome, il a autant d'électrons qui sont des charges négatives que de protons dans le noyau. Sa charge électrique est nulle. Il est neutre, électriquement neutre. Résultat, si vous appliquez un champ électrique à un tel atome, il ne se passe rien. Vous mettez un champ électrique, il ne se passe rien, parce que la force agissant sur une particule de charge nulle, cette force est nulle. Alors, prenons un gaz. Nous sommes dans l'air. L'air est composé de molécules, d'atomes neutres, a priori. Donc, si on crée un champ électrique dans un gaz, il ne va rien se passer. Sauf si quelques atomes deviennent ce qu'on appelle ionisés. Qu'est-ce que ça va être qu'un atome ionisé? Ça va être un atome qui va perdre un de ses électrons. Comment un atome peut-il perdre un électron? Il a une énergie qui le tient au noyau. Pour qu'il perde cet électron, il faut lui fournir une énergie supérieure à celle-là. Comment réaliser un tel processus? Eh bien, la nature le fait. Vous savez qu'on reçoit les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des rayons électromagnétiques de très forte énergie. Ils traversent tout, et lorsqu'ils arrivent sur les atomes, de temps en temps, ils arrachent un électron. La radioactivité naturelle de notre Terre, même chose, émet des particules qu'on appelle des photons. Ce sont des particules d'une lumière très très intense qui arrachent également des électrons. Et vous voyez que l'air qu'on respire, l'air dans lequel on vit, c'est un air fondamentalement neutre, sauf que de temps en temps, quelques atomes voient des électrons arrachés. Et vous voyez que ce phénomène change tout, parce qu'à partir de l'instant où un électron a été arraché de l'atome, vous n'avez plus une particule neutre, vous avez une particule positive qui est l'atome moins un électron, et une particule négative qui est l'électron. Et vous voyez que le champ électrique éventuel qui peut exister, soit naturellement, par exemple en cas d'orage entre un nuage et la Terre, soit le champ électrique qu'on va créer artificiellement avec des moyens techniques, ce champ va entraîner les particules, les accélérer, leur donner de l'énergie cinétique, et cette énergie va être capable à son tour d'arracher éventuellement des électrons d'autres atomes et de multiplier ainsi le phénomène. Les applications de ces effets sont très nombreuses. J'ai cité l'orage, ça c'est une conséquence, je dirais, pas très heureuse, c'est la foudre. Lorsque, justement, l'air qui était isolant devient légèrement conducteur et qu'une décharge électrique se fait entre le nuage et la Terre. Mais vous avez des applications très heureuses, par exemple, dans les tubes fluorescents qui nous servent pour l'éclairage. On utilise un certain nombre de ces propriétés que je viens de décrire. Donc là, on a vu la situation d'un gaz. Maintenant, que se passe-t-il quand on fait un solide ? Quand on fait un solide, on va juxtaposer côte à côte un certain nombre de ces atomes. Dans le gaz, ils sont très diffus, assez loin les uns des autres. Quand on va les rassembler pour faire un solide, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un deuxième noyau. Et à nouveau, si c'est un solide composé des mêmes atomes, on va avoir les mêmes couches atomiques. Et on recommence ce dessin à l'identique. Et qu'observez-vous à ce moment ? Vous observez que les électrons périphériques de l'atome, au fond, ils aiment bien leur noyau, ils vivent avec lui depuis si longtemps. Mais vous voyez que dans leur rotation, tant qu'ils étaient seuls et loin des autres, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de rester avec leur atome. À partir du moment où on va mettre tous ces atomes à proximité les uns des autres, vous voyez que cet électron, par exemple, dans sa rotation, il peut avoir des tentations, quand il arrive dans cette région, d'être attiré par l'atome voisin. Et vous voyez que ce phénomène va se produire d'autant plus, on serait tenté de dire, que les atomes sont proches les uns des autres. Dans un gaz, ils sont peu nombreux. Dans un, typiquement, disons, on va en mettre 10 puissance 23, c'est un nombre énorme, ça va représenter des litres, voire des mètres cubes. Dans un solide, 10 puissance 23 atomes, ça va représenter un centimètre cube. Ils vont donc être extrêmement serrés près les uns des autres. Pourquoi, dans ces conditions, lorsqu'on applique un champ électrique, pourquoi les électrons ne voyagent-ils pas dans toutes les matières connues ? Et l'expérience a montré que ce n'est pas le cas, puisque les isolants, justement, ne permettent pas le passage de l'électricité. Alors, on va s'intéresser un peu plus à eux. Vous voyez, au fond, ce sont des êtres très sensibles. Les électrons, ils suivent leur noyau, ils ont de l'affection pour lui. Dans certains cas, pourquoi abandonnent-ils ce noyau pour aller vers d'autres ? Dans d'autres cas, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ? Eh bien, on va voir que les électrons ont une vie quand même extrêmement conditionnée par quelques règles qu'ils respectent de façon très stricte. Les électrons ne peuvent pas occuper n'importe quel état. Vous l'avez déjà vu à l'occasion, par exemple, de la conférence sur les horloges atomiques, où vous avez vu que les électrons sont sur des niveaux très bien définis. Ce qui veut dire que les électrons occupent des états d'énergie. Et je viens d'introduire un mot important, des états d'énergie. Pourquoi ? Parce que dans un solide, on peut montrer que les électrons n'ont pas n'importe quelle énergie, ils ont certaines énergies permises uniquement. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on dessine les énergies possibles sous forme de bandes. C'est une représentation esthétique. Là, je représente les énergies. Et ici, on va représenter les états possibles. On peut montrer que dans un solide, chacune de ces structures, que j'appelle des bandes, contient un certain nombre d'états possibles. Ce qui veut dire que des électrons vont venir occuper ces états et remplir progressivement en fonction du nombre d'électrons. Vous savez que la nature aime se mettre dans l'état d'énergie le plus faible. Donc naturellement, quand vous allez avoir un solide qui a un certain nombre d'électrons, eh bien, les électrons vont remplir tous ces états. Comment vont-ils remplir ces états ? Eh bien, ils ne sont pas tout à fait libres, parce qu'ils doivent respecter un principe qui est ce qu'on appelle le principe de Pauli. Le principe de Pauli est très sévère pour les électrons, parce qu'il dit qu'il ne peut y avoir qu'un électron par petite case énergétique. Autrement dit, on se trouve avec un principe très sévère qui voudrait dire que les électrons doivent vivre célibataires toute leur vie. Heureusement, la nature a un tout petit peu arrangé la chose. Elle a introduit ce qu'on appelle le spin de l'électron. Le spin de l'électron, c'est la rotation de l'électron sur lui-même. Et vous savez que cette rotation de l'électron sur lui-même se traduit par l'existence d'un petit moment magnétique. C'est comme un petit aimant. Et ce petit aimant peut prendre deux orientations, dans un sens ou dans l'autre sens. Eh bien, l'électron contourne le principe de Pauli en le respectant, en disant dans une case énergétique, je vais faire deux chambres. Une chambre avec le moment magnétique dans un sens, le spin dans un sens, et une chambre avec le spin dans l'autre sens. Moyennant quoi, on va pouvoir mettre, en réalité, deux électrons dans chacune de ces petites boîtes que je viens de décrire. Et donc, vous voyez qu'on remplit progressivement, on remplit, tout ça se remplit. Et puis, selon le nombre d'électrons qu'on a dans notre solide, on va arriver en haut de cette bande. Mais à ce moment, il se passe quelque chose de très grave. Il n'y a plus d'états disponibles dans cette bande. Ils sont tous pleins. Et là, on a une bande d'énergie interdite. Les électrons n'ont pas le droit de venir ici. S'il nous reste des électrons, ils doivent venir remplir les cases qui se trouvent dans cette bande-là. Et vous voyez apparaître ce qui va différencier les isolants des solides, des conducteurs. Pourquoi ? Supposez que votre nombre d'électrons du solide, et lui il est complètement connu, vous savez qu'il y a par exemple 11 électrons par atome, vous avez 10 puissance 23 atomes, ça vous fait 11 fois 10 puissance 23 électrons. Donc ce nombre est parfaitement connu. On remplit tous les états. Et vous voyez qu'il y a deux situations fondamentalement différentes. Première situation, tous ces états sont pleins, tous ces états sont vides. Imaginons donc que le nombre d'électrons correspond exactement au remplissage de cette bande. Appliquons notre champ électrique de tout à l'heure. Le champ électrique, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une force sur les électrons. Tous ces électrons ont envie de se déplacer. Le peuvent-ils ? Ces électrons sont dans la situation où vous êtes. Un soir de grande affluence dans un wagon de métro, le wagon est bourré, vous êtes serré dans votre coin, et vous voyez entrer à l'autre extrémité du wagon un ami que vous avez envie de voir depuis très longtemps. Vous êtes attiré par cet ami, comme l'électron est attiré par le champ électrique. Mais si le métro est bourré, si le wagon est plein, vous ne pouvez pas bouger. Eh bien, l'électron est exactement dans cette situation. Résultat, la présence d'un champ électrique dans cette situation n'a aucun effet. Il n'y a pas de mouvement d'électrons, il n'y a pas de courant électrique. On a affaire à un isolant d'électricité. Les isolants ont beaucoup d'intérêt, hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne transportent pas le courant qu'ils n'ont pas d'intérêt. Exemple d'application des isolants, eh bien l'isolation électrique. Tous les câbles électriques, tous les fils, les interrupteurs sont protégés par des isolants qui vont empêcher l'électricité d'arriver sur notre corps. ou simplement de faire des courts-circuits. Les isolants ont mille autres applications, on en dira quelques mots dans un petit instant. Revenons un peu en arrière, on a vu donc comment, si le nombre d'électrons remplit exactement le nombre de cases permises de cette bande, on a affaire à un isolant. Mais m'a-t-on supposé qu'on ait des électrons encore en excès qui n'ont pas trouvé leur maison? Où est-ce qu'on va les mettre? Eh bien, on va les mettre dans les premiers états libres immédiatement au-dessus de cela, c'est-à-dire, on va commencer à remplir cette bande. Et vous voyez qu'on va arriver à un moment au niveau maximum du remplissage. Par exemple, on va dire qu'on arrive à cet endroit, c'est-à-dire tous les états sont occupés en dessous et les états sont libres au-dessus. Maintenant, supposez que vous appliquiez le champ électrique de tout à l'heure. Vous voyez que la situation est radicalement différente. Tous ces électrons, eux, c'est pareil qu'avant. Ils sont tous bloqués, ils ne peuvent pas bouger. Bon, ils ne bougent pas. Ceux-là sont aussi entourés d'états occupés. Ils ne peuvent pas bouger. Mais regardez ceux qui sont près de la ligne verte que j'ai dessinée là. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils voient? Juste au-dessus de leur tête, ils voient plein d'états libres. Conséquence, ils sentent la force du champ électrique qui les attire, et vous voyez qu'ils ont, comme ils sont négatifs, la force est dirigée vers la gauche, et vous voyez qu'ils n'ont aucune difficulté à sauter d'état en état et à se déplacer. Ils ont des états possibles juste au-dessus de leur tête. On a affaire à un conducteur de l'électricité. Les métaux sont des systèmes dans lesquels le niveau maximum du remplissage tombe en plein dans une bande d'énergie permise. Moyennant quoi, vous voyez, la subtilité, la différence entre isolant et conducteur est une différence extrêmement subtile, extrêmement petite. Elle est uniquement liée au nombre d'électrons qu'il y a dans le solide, qui est complètement contrôlé. Il est lié à la nature de l'atome et à la structure de votre solide. Et vous voyez que cette simple différence, à cause du principe de Pauli, explique les isolants et les conducteurs. Alors, il y a des choses un peu entre les deux maintenant. Pourquoi? Revenons un bref instant à la situation d'un isolant. Dans le cas de l'isolant, j'ai dit j'ai une bande qui est pleine et j'ai une bande d'énergie possible qui est vide. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle souvent la bande interdite. Vous voyez, elle est interdite parce qu'il n'y a pas d'état, il n'y a pas d'état électronique possible. On a affaire à un isolant. Maintenant, pour avoir un conducteur, que faudrait-il à partir de cet isolant? Il suffirait de prendre un électron ici, de l'arracher de cette bande et de l'envoyer là. Vous voyez que si on est capable de faire ça, on fait deux choses. On libère une petite maison ici et on met un électron là. Conséquence, le champ électrique qu'on va appliquer, ce champ électrique va pouvoir envoyer un électron voisin dans la petite maison libre qu'on vient de libérer. Lui-même libère une petite maison, donc un électron va pouvoir se déplacer comme ça. On a donc un courant ici. Deuxièmement, l'électron qu'on a envoyé là, lui-même, il est entouré d'états libres. Il n'a donc aucune difficulté à sauter d'état en état et à créer un courant. Vous voyez que ce matériau qui était un isolant est capable de devenir conducteur. Alors la question, qu'est-ce qui peut envoyer un électron de là à là? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il faut lui fournir de l'énergie, bien entendu, puisque le système doit maintenir l'énergie. Comment lui fournir de l'énergie? Première idée, très simple, c'est de lui envoyer une lumière, un flux de ce qu'on appelle ces petits grains de lumière qu'on appelle les photons. Si on lui envoie des photons, s'ils ont une énergie chacun suffisante, l'énergie, vous savez, peut-être c'est h nu, h la constante de Planck, et nu la fréquence de vibration de l'onde, si on envoie des grains de lumière assez énergétiques, si leur énergie est supérieure à la bande interdite, alors cette transition est possible. Conséquence, ce matériau qui était isolant, en présence de lumière, il devient conducteur. C'est ce qu'on appelle un photoconducteur. Les photoconducteurs, vous en utilisez peut-être tous les jours sans le savoir. Chaque fois que vous faites une photocopie, vous utilisez un photoconducteur. Chaque fois que vous imprimez sur une imprimante laser un document, vous utilisez des photoconducteurs. Alors, une très brève parenthèse, comment fait-on un photocopieur ? Eh bien, c'est très simple. On va prendre un rouleau conducteur de l'électricité. On va le relier à la masse, disons, comme ça. Sur ce rouleau conducteur, on va déposer une couche photoconductrice. On va rester dans le noir, tout ça va être dans le noir. Et ce rouleau va tourner mécaniquement. On va déposer, donc là il y a un axe, et il va tourner autour de cet axe. On va envoyer ici des charges électriques, par exemple des charges positives. Comme on est dans le noir, le photoconducteur étant isolant, ces charges électriques restent. Imaginez qu'à cet endroit, on projette avec une lentille et un système optique l'image d'un document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à cet endroit, on va projeter des zones éclairées et des zones sombres correspondant aux zones non imprimées ou aux zones imprimées de votre document. Là où il y a de la lumière, le photoconducteur devient conducteur. Conséquence, les charges qui étaient là s'écoulent à la masse, elles disparaissent. Là où il y avait de l'encre sur votre document d'origine, il n'y a pas de lumière, les charges restent. Conséquence, que se passe-t-il de ce côté de la lentille ? Au lieu d'avoir une répartition uniforme de charges, vous avez une répartition non uniforme, qui reproduit l'image du document que vous cherchiez à reproduire. Il suffit d'envoyer une poudre colorée qui va être collée sur les charges existantes. Vous allez donc vous retrouver avec l'image sur le cylindre de votre document et il suffit d'amener une feuille de papier par un mécanisme qui va venir presser contre le cylindre. Vous allez redéplacer l'encre qui était collée aux charges, vous allez la coller sur le papier, vous avez réalisé la photocopie. Vous voyez que ce processus, ensuite vous nettoyez le cylindre et vous recommencez, la machine est prête à fonctionner. Voilà un exemple d'application des photoconducteurs dans un objet de la vie quotidienne que sont les photocopieurs. Les imprimantes laser, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de reproduire un document à partir d'une image optique, c'est un ordinateur qui va envoyer des données pour piloter un petit laser qui va éclairer le photoconducteur en faisant s'écouler les charges au bon moment. Donc on a vu une première application de ça. Autre application des isolants, les fibres optiques. Les fibres optiques, ce sont des matériaux dans lesquels on veut transmettre des ondes. Vous voyez qu'il faut absolument que ces matériaux soient isolants, parce que s'ils étaient conducteurs, alors l'onde qui crée un champ déplacerait les électrons de la fibre, et ça produirait des courants de l'absorption. Très rapidement, l'onde serait atténuée. Il faut donc des isolants. Vous avez des exemples d'isolants à des endroits très connus. Dans votre cuisine, quand vous tirez le film plastique avec lequel vous allez recouvrir des assiettes ou des bols, vous le tirez assez rapidement, et si vous ne faites pas attention, il se froisse, il se colle dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que vous avez arraché des charges électriques. Elles sont sur le film, elles créent des forces. Quand vous allez plaquer ça sur un bol ou autre chose, ça va bien coller. Si vous avez, au contraire, un bol humide, ça ne va pas marcher du tout, parce que l'humidité de votre bol va conduire des charges électriques et ça va neutraliser ça. Alors, une petite expérience toute simple, je prends un rouleau de scotch. Au moment où je déroule le scotch, jarrage des charges électriques. Et vous voyez que les deux feuilles se repoussent. Pourquoi est-ce qu'elles se repoussent ? Parce qu'elles ont des charges électriques de même polarité, collées de chaque côté. Comment peut-on neutraliser ça ? Eh bien, je vous ai dit, l'air est neutre. L'air est neutre, sauf pour les rayons cosmiques et la radioactivité naturelle. Si je chauffe l'air, je l'ionise. Voilà une expérience facile et qui porte énormément de physique. Vous voyez, elle contient la physique de l'isolant, la physique du gaz et l'ionisation. Alors maintenant, venons aux conducteurs. Les conducteurs, eux, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'ils ont une situation très différente. Les conducteurs, eux, on n'a pas besoin d'envoyer d'électrons dans la bande la plus élevée, puisqu'il y en a naturellement. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que, en ce cas-là, il y a des bons conducteurs et des mauvais conducteurs ? Bon, je n'entrerai pas sur le sexe des conducteurs, qui serait un sujet polémique. Pourquoi y a-t-il de bons et de mauvais conducteurs ? Qu'est-ce qui fait qu'un métal est bon conducteur, qu'est-ce qui fait qu'un métal n'est pas bon conducteur ? On a vu qu'avant tout, les électrons qui vont jouer dans la conduction, ce sont ceux qui sont tout près de cette surface, tout près de la zone de séparation entre les états occupés et les états libres. C'est ce qu'on appelle souvent le niveau de Fermi. Le niveau de Fermi... Fermi était un grand physicien qui a énormément fait progresser la connaissance des systèmes électroniques. Et ce niveau a un rôle majeur dans les métaux. Parce que justement, si vous êtes un électron, vous êtes là juste à la surface, on applique un champ électrique, vous êtes tiré par une force, eh bien il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller très facilement. Il y a autant d'états libres que vous voulez. Vous pouvez respecter le principe de Pauli et vous déplacer. Donc tout va bien. Alors pourquoi dans certains cas ça va très bien et dans d'autres cas ça va un peu moins bien ? Eh bien on introduit ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Le libre parcours moyen, c'est la distance physique qu'un électron est capable de franchir sans collision. Donc imaginez... Vous êtes dans un matériau où il y a des plans atomiques à peu près tous les angstroms, c'est-à-dire tous les dixièmes de milliardièmes de mètre. Vous avez un plan atomique. Imaginez un électron là-dedans, entraîné par le champ électrique. Il est capable de franchir une certaine distance. Cette distance... qu'on appelle le libre parcours moyen, c'est celle qu'il peut franchir avant de rencontrer une collision, avant d'avoir une collision. Alors vous allez dire, mais il y a des collisions sans arrêt, puisqu'il y a un plan atomique tous les angstroms, donc tous les dixièmes de milliardièmes de mètre, et comment est-ce qu'il ne va pas se cogner ? Eh bien non. Si le solide est très régulier, si les atomes sont bien rangés, l'électron n'est pas perturbé. L'électron n'est perturbé que par les défauts de la périodicité du système. Si vous avez un système parfait, l'électron n'est pas perturbé. Alors vous allez me dire, les systèmes parfaits n'existent pas. C'est vrai. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas ? Pour deux raisons. D'abord, il y a toujours des impuretés dans un métal. Qui dit impureté dit atomes de nature différente des atomes voisins. Conséquence, localement, vous avez... une anomalie, et votre jolie périodicité a disparu. Et vous voyez que les électrons peuvent avoir des collisions avec les impuretés chimiques, bien sûr, mais ça peut être aussi des impuretés cristallographiques. Imaginez, regardez ce qui se passe dans la montagne, quand vous voyez les plans, bah, de temps en temps, il y a une faille ou une dislocation. La même matière, elle s'est tordue. Bah, c'est un défaut de la périodicité. Les électrons peuvent avoir des interactions avec les défauts cristallographiques. Alors vous allez me dire, d'accord, on va faire des matériaux très propres, très bien faits cristallographiquement. C'est effectivement ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait du cuivre pour l'électricité, pour l'industrie électrique, eh bien on prend un cuivre très pur. On le fait aussi pur qu'on peut, pour un prix acceptable. Est-ce suffisant? Eh bien non. Pourquoi? Parce que il y a la température. Alors la température, vous allez me dire, bon, ben, la température. La température, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'énergie. Et cette énergie, elle agite les atomes. Et vous avez votre solide, il est pur, il est cristallographiquement bien, mais les atomes sont agités par la température. Résultat, vous avez abîmé la périodicité, puisque s'ils sont agités, c'est qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Et vous voyez une troisième cause de perturbation des électrons d'un métal, la température à cause de l'agitation thermique. Si vous prenez maintenant... Au fond, ce que je viens de vous décrire, c'est quoi? C'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler depuis longtemps, qui est ce qu'on appelle l'effet Joule. L'effet Joule, la résistance d'un métal, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est le fait que les électrons ont un libre parcours moyen limité. Limité à cause des impuretés, à cause des défauts cristallographiques, à cause de la température. Résultat, si on diminue la température, on diminue les défauts dus à l'agitation. Donc on diminue la résistance électrique. Eh bien, vous pouvez faire l'expérience très facilement. Vous prenez une ampoule électrique. Une ampoule électrique, c'est quoi? C'est une résistance. Si vous mesurez la résistance à froid de l'ampoule, vous allez trouver une certaine valeur. Si vous mesurez la résistance quand elle fonctionne, à chaud, lorsque le filament est chauffé, eh bien, vous allez trouver une valeur très différente. De la même manière, si vous réduisez la température en mesurant la résistance, si je mesure la résistance en fonction de la température, eh bien, on va observer une décroissance de la résistance. Et puis, à un moment, ça va s'arrêter. Pourquoi? Ça veut dire que tant qu'on diminuait la résistance ici, ça voulait dire que le libre parcours moyen des électrons était uniquement limité par la température. Donc en refroidissement, on augmentait le libre parcours moyen. Et puis à un moment, on a beau refroidir, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Ben, ça veut dire parce qu'on a atteint le régime où les impuretés, où les défauts limitent, et eux ne dépendent pas de la température. Vous voyez qu'une expérience extrêmement simple, mesure de résistance fonction de la température, va vous donner le niveau d'impureté de votre solide. Plus votre solide est propre, plus ce palier va être faible. C'est la raison pour laquelle on envisage, on a d'autres solutions maintenant, pour transporter de l'électricité avec des pertes les plus faibles possibles, et vous savez que l'effet Joule, ce sont des pertes, on envisageait de refroidir les câbles électriques simplement pour pouvoir baisser la valeur résiduelle de la résistance. Alors vous allez dire, au fond, tout est bien, on a décrit ça, c'est formidable, on a vu les isolants, on a vu les métaux, les conducteurs, est-ce qu'on a tout décrit? Eh bien, on a presque tout décrit, mais dans certains matériaux, il se passe quelque chose d'autre. Dans certains matériaux, et c'est une expérience qui a été faite en 1911, aux Pays-Bas, un physicien fait cette mesure, résistance fonction de la température, sur du mercure. Et qu'est-ce qu'il observe? Il observe, effectivement, tout va bien, et brusquement, en arrivant à une température dont on va reparler, il observe brusquement une chute à zéro. Évidemment, les gens pensent qu'il y a une erreur expérimentale, un fil s'est débranché, dans l'expérience, quelque chose s'est passé. L'expérience est refaite, elle est refaite sous des formes diverses. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, il existe une température qu'on va appeler la température critique, T indice C, en dessous de laquelle le métal perd toute résistance. Alors vous allez me dire, c'est quoi perdre toute résistance? Ben, je vais vous dire, c'est la résistance vaut zéro. Mais c'est quoi zéro en physique? En mathématiques, zéro, ça a une signification. En physique, c'est quoi? c'est en dessous de ce qu'on est capable de mesurer. Puisque rien ne nous prouve qu'il n'y a pas une petite, un petit résidu. Et ce résidu est tellement faible qu'on est capable, avec ces matériaux, qu'on appelle des matériaux supraconducteurs, on est capable de faire une spire. On prend un fil supraconducteur, on le ferme sur lui-même, on rentre un courant électrique là-dedans. Normalement, si vous faites ça dans le meilleur cuivre possible, en quelques fractions de seconde, le courant a disparu par effet Joule. Le courant s'est transformé en chaleur. Dans le cas précis, le courant tourne, il ne change pas. Il y en a qui tournent depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas encore réussi à en sortir. Vous imaginez à quel point la résistance est petite, vu la vitesse du courant, pour qu'il puisse tourner pendant 10 ans sans rien faire. C'est donc, quand je vous disais c'est zéro, même pour un physicien, c'est aussi zéro qu'on puisse connaître zéro aujourd'hui. Ces matériaux, vous imaginez, ont suscité à la fois une curiosité incroyable, un intérêt scientifique, un intérêt industriel. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, on pouvait rêver de faire des systèmes qui n'avaient plus aucune perte. Vous voyez que c'est un mouvement perpétuel. On vous dit toujours le mouvement perpétuel est impossible. Ici, vous avez un mouvement perpétuel. Le courant tourne sans aucune dissipation. Vous imaginez que la supraconductivité a enflammé l'imagination, l'enthousiasme des chercheurs, et c'est toujours vrai. Alors, pourquoi est-ce que vous n'en entendez pas plus parler dans la vie quotidienne ? Pourquoi est-ce qu'au fond, elle n'a pas révolutionné à la fois nos connaissances et le monde industriel dans lequel on vit ? Elle est merveilleuse, elle a seulement un petit défaut. Elle se produit à très basse température. Dans l'expérience de 1911, la température qu'on avait là, c'était 4 degrés 23 absolus. 4 degrés absolus, vous rappelez que le zéro absolu, c'est moins 273 degrés centigrades. C'est-à-dire, c'est moins 269 degrés centigrades. Moins 269, c'est très froid. Personne ne dira le contraire. Pas même Claude Gentanougi avec ses atomes froids. Il fait encore plus froid, vous l'avez entendu, mais quand même, moins 269, c'est déjà très froid. Donc c'est très difficile de faire des applications industrielles à cette température. On en fait quelques-unes. Par exemple, quand vous allez faire une image par résonance magnétique nucléaire dans un hôpital, ben maintenant, pratiquement, tous les systèmes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire utilisent un supraconducteur pour faire le champ magnétique intense dans lequel on va vous mettre. Donc, de ce point de vue, on peut dire que ça commence à être utilisé. Mais vous voyez qu'on ne peut pas imaginer que vous ayez une télévision, une radio, un téléphone qui soit refroidi à des températures pareilles. Vous imaginez l'effort qui a été fait au niveau mondial depuis cette découverte. Comment les choses ont-elles évolué ? Eh bien, on a cherché, évidemment, les physiciens ont cherché à augmenter cette température, cette fameuse température critique. Elle a aussi, les supraconducteurs, je dois vous dire, ont d'autres propriétés. Ils ont cette propriété que je viens de vous décrire, de ramener la résistance électrique à zéro. Ça, c'est une des propriétés. Ils en ont plusieurs autres, tout aussi intéressantes. Ils ont une propriété qu'ils ne laissent pas les champs magnétiques les pénétrer. Ils font ce qu'on appelle l'expulsion du champ magnétique. Ça a beaucoup de conséquences pratiques. Ils ont des tas d'autres propriétés sur lesquelles je ne rentre pas, j'y reviendrai dans un tout petit moment. Donc devant tout ce potentiel, vous imaginez que les États, que les entreprises, tout le monde a cherché. Comment peut-on améliorer ces matériaux pour en faire des matériaux utilisables ? Et pour les rendre utilisables, on est là en 1911, donc je vais ici porter les années. Et puis ici, je vais porter la température critique. On est en 1911, et on est où ? On est à 4,23 degrés absolus. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les échelles Kelvin, je vais faire deux échelles côte à côte. L'échelle Kelvin, donc qui part de 0, 4 degrés 2 et ainsi de suite, et puis l'échelle centigrade, donc ici on est à moins de 169, disons. Voilà, 1911. Vous imaginez, enthousiasme, on cherche là-dessus. Et vous allez voir que ces matériaux supraconducteurs sont des matériaux banals. C'est banal, banal. Ce n'est pas des trucs sophistiqués. Le plomb, l'étain, le plomb de vos canalisations, c'est un supraconducteur. Malheureusement pas à la température où il est dans votre appartement. À une température très froide, proche de 269. Moins de 269. Donc, beaucoup d'efforts, on cherche des matériaux pour monter la température. Puisqu'on comprend que si on a un matériau qui fonctionne à température élevée, c'est une révolution industrielle. Et en même temps, on essaye de comprendre pourquoi les électrons, brusquement, ne respectent plus rien. Ni principe de Pauli, ni règles d'interaction, ni parcours moyen, plus rien. Donc vous voyez un double défi, un défi scientifique, un défi industriel. Et la température progresse. Elle progresse, et puis elle se met à stagner. Et dans les années 80, donc vous voyez, 70 ans plus tard, on est là en 1980, on est autour de 23 Kelvin, c'est-à-dire, on a gagné 20 degrés, on est à moins 240. Faire des systèmes à moins 240, là encore, c'est pas pratique. Quelques nouvelles applications voient le jour. L'étalon volt. L'étalon volt, vous savez que le volt, les étalons, c'est extrêmement important pour l'industrie, puisque quand on parle du volt... À Paris, il faut que ce soit le même volt que celui de Marseille, et il faut que ce soit le même volt que celui de New York, ou de Los Angeles, ou de n'importe quelle autre ville. Donc, la notion d'étalon est importante. Or, on adore un étalon, ce sont les fréquences. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, les électrons autour d'un atome sont extrêmement, extrêmement bien placés. Et ça, qu'ils soient à New York, à Moscou ou à Paris, ils sont placés au même endroit. Donc l'énergie qui correspond au saut d'un état électronique à un autre, elle est parfaitement rigoureuse. Et ça, on sait le mesurer. On a donc ici une horloge qui est transportable dans le monde entier, sans problème. Donc tout ce qu'on peut ramener à des fréquences, on essaye pour faire des étalons. Eh bien, grâce à la supraconductivité, on a trouvé une relation entre la tension et la fréquence. Donc désormais, depuis plusieurs années déjà, le volt étalon, ce n'est plus la pile Daniel que vous avez peut-être appris dans le temps, c'est désormais une référence avec un élément supraconducteur. Mais c'est des petites applications. Et donc vous voyez ici, dans les années 80, la communauté scientifique commence à se poser des questions. Peut-être qu'il y a une limite naturelle. Après tout, on ne connaît pas exactement les raisons de ce phénomène. Peut-être que, simplement, la nature a limité ça à cette température. Et petit à petit, les recherches dans le monde se réduisent. L'effort financier baisse, le nombre de chercheurs, vous imaginez aussi, vous êtes chercheur, depuis 10 ans, vous travaillez là-dessus et vous avez gagné un dixième de degré. Bon, c'est un peu décourageant. Il n'en reste plus que 240 à faire. 239, donc quand même, ça manque d'enthousiasme. Donc l'effort se réduit. Et en 86, choc dans la communauté scientifique mondiale, deux scientifiques, Bednoz et Müller, gagnent d'un coup 6 degrés. 6 degrés vu comme ça, ça a l'air ridicule. Sur ce dessin, 6 degrés, ça fait ça. Et pourquoi est-ce que ça change tout ? Parce que là, on commençait à penser qu'il y avait une limite le fait de franchir cette limite voulait dire qu'il n'y avait pas de limite. En tout cas, pas celle-là. Panique dans le monde, tous les laboratoires qui avaient touché de près ou de loin ce sujet se remettent sur le sujet, ressortent leurs vieux équipements. En quelques semaines, la température se met à monter de manière spectaculaire. Le président des États-Unis, dans son discours de l'État de l'Union, annonce, dans son discours, quand les politiques s'en mêlent, vous voyez ce que ça devient, dans son discours de l'Union, le président des États-Unis annonce la supraconductivité, c'est la nouvelle frontière de l'Amérique. Ça vous donne une idée quand même de la révolution industrielle que permettrait la supraconductivité. Et donc, en quelques semaines, tout le monde travaille là-dessus. Il n'y a plus. Vous savez que dans la communauté scientifique, il y a des règles de publication, ça passe par des référis qui sont des examinateurs indépendants qui examinent. On n'a plus le temps, là. Là, on n'a plus le temps. Pendant quelques semaines, tout est publié. Le meilleur et le pire, ça n'a pas d'importance, on fera le tri plus tard. Et les choses progressent. Et on arrive. On dépasse très rapidement une température qui, industriellement, a une très grande importance, qui est 77 Kelvin. 77 Kelvin, ça fait grosso modo moins 200 centigrades. Pourquoi est-ce que c'est une barrière très importante? Parce que c'est la température de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est un fluide facile, abondant, peu cher. Vous savez que l'azote liquide, c'est ce liquide que vous voyez parfois dans des espèces de petits bidons. Donc vous voyez, c'est un liquide qui est à moins de 100 degrés, qui se transporte facilement. Vous voyez, je l'ai pris dans ma voiture. C'est un liquide qui... Alors, pourquoi il est dans cette bonbonne? Parce que vous voyez que je ne toucherai pas avec mes doigts un liquide à moins 200. Ce serait comme si je touchais un liquide à plus 200 du point de vue de la peau. Sauf que là, ça la gèlerait au lieu de la brûler. Donc, il est contenu dans une grosse bouteille thermos. Cette bouteille thermos, donc, vous voyez, il coule et immédiatement, il se vaporise. Parce qu'en touchant le sol, c'est comme si vous jetiez de l'eau sur une plaque à 200 degrés. Elle se vaporise instantanément. Mais c'est un liquide peu cher et très industriel. Toutes les usines métallurgiques utilisent de l'azote liquide. Vous avez des canalisations qui le transportent. Ça devient un produit industriel. Et donc cette barrière des 77 Kelvin a représenté brusquement quelque chose d'une perspective formidable. Alors pourquoi est-ce que, ça c'était en 86, on est en 2000, près de 15 ans se sont déjà écoulés. Pourquoi est-ce que notre vie quotidienne n'est pas encore entourée de ces matériaux? Eh bien, parce que ces matériaux sont beaucoup moins sympathiques que les anciens supraconducteurs. Les anciens supraconducteurs, je vous ai cité le plomb, le mercure, l'étain, c'était des matériaux qu'on savait travailler. On sait faire des fils de plomb, on sait faire des fils d'étain. Les nouveaux supraconducteurs, ce sont des matériaux de la famille des céramiques. Les céramiques, c'est beaucoup moins sympathique, faire un fil en céramique. On commence à le faire. On commence depuis 2-3 ans, on sait faire 1000 mètres de fil au prix d'efforts technologiques considérables. Mais c'est en train de venir. Alors, est-ce que la science en parallèle a progressé depuis 1911? Elle a fortement progressé, on peut dire chaque découverte un peu significative a été récompensée par un prix Nobel. C'est un sujet tellement excitant pour l'esprit humain que quels sont aujourd'hui les modèles qu'on a pour expliquer ce phénomène? Pourquoi les électrons font ça? Eh bien, on ne peut pas se quitter sans que vous sachiez ce qu'on appelle les paires de Cooper. Cooper était un physicien américain, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs pour cette découverte, qui a cherché à comprendre pourquoi, et il n'était pas le premier hein, depuis 1911, pourquoi ce changement d'état de la matière, pourquoi brusquement, plus aucune résistance. Et Cooper a fait un modèle qui est encore utilisé, qui est un modèle assez simple, qui consiste à dire quand un électron se déplace dans la matière, donc il est entouré, là il y a partout des atomes, cet électron est négatif. Il attire donc les charges positives. Mais l'électron, donc quand l'électron est là, ça veut dire qu'il attire les charges positives qui sont autour. Les noyaux, les cœurs d'atomes sont positifs, sont légèrement attirés par ce petit électron que je devrais dessiner d'une autre couleur. Je vais dessiner le petit électron en vert. Donc notre petit électron vert est là et il attire toutes ces charges positives là qui se dirigent vers lui. Mais l'électron, il est léger et rapide et les ions, ils sont gros et lourds. Le temps qu'ils se mettent en mouvement, l'électron, il est déjà parti. Résultat, l'électron n'est plus là, mais ici, on a une région légèrement positive, puisque eux étaient venus parce qu'il y avait une charge négative. Ils venaient assurer la neutralité. L'électron est parti, on a donc une zone légèrement positive. Conséquence, cette zone légèrement positive va être capable d'attirer un autre électron. Et si on avait un électron qui vivait sa vie, qui allait par là, brusquement il rencontre ici une zone négative, il est attiré, positive, il est attiré. Et vous voyez que Cooper introduit une idée révolutionnaire, deux électrons qui ont pourtant la même polarité sont capables de s'attirer et non pas de se repousser comme on l'aurait pensé spontanément dans certaines circonstances. Cette interaction attractive entre électrons, c'est ce qu'on appelle l'attraction retardée. Vous voyez qu'elle est légèrement retardée dans le temps, mais vous voyez qu'elle a un effet très étonnant. Elle permet de coupler deux électrons pour constituer une entité nouvelle qui est ce qu'on appelle la paire de Cooper. La paire de Cooper, ce sont donc deux électrons très particuliers, mais qui n'obéissent plus à aucune des lois auxquelles les électrons normaux célibataires obéissent. Et on sait aujourd'hui mesurer les paires de Cooper, on sait mesurer leur nombre, on sait mesurer combien il y a d'électrons célibataires, combien il y a d'électrons paires de Cooper, en paires de Cooper. Les paires de Cooper n'obéissent plus en particulier au principe de Pauli. Alors, les supraconducteurs, laissez-moi vous faire une petite expérience, si je la réussis, elle n'est pas toujours facile, pour vous montrer une des propriétés extraordinaires de ces matériaux. Alors, on va essayer. On va prendre un petit peu d'azote, un petit verre d'azote pour se détendre là. Si le verre se casse, enlevez vite vos pieds. Alors voyez ici ce qui se passe. C'est je verse l'azote, donc l'azote est très froid, comme on l'a vu, l'azote liquide, donc il bouillait. Ce que vous voyez, c'était les vapeurs d'azote. Donc maintenant, j'ai un petit gobelet avec de l'azote dedans. Donc je ne mets pas le doigt dedans, hein, je vous ai remarqué. Voilà un petit morceau de supraconducteur de nouvelle génération, donc fait en céramique. Je vais mettre ce petit morceau là-dedans pour le refroidir. Vous voyez, là, il bouillonne un peu. Il faut le temps qu'il se refroidisse, c'est pour ça. C'est imaginer que tout se passe comme si je mettais dans de l'eau un morceau à 200 degrés. Bien sûr, l'eau bout jusqu'à ce que l'objet soit refroidi. Je vais mettre une petite goutte là, dans le petit verre. Et ça, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Donc ici, c'est un petit récipient en polystyrène expansé, simplement qui est isolant de la température. Donc l'azote dedans, normalement, reste. L'azote est dedans. Je remets une petite goutte quand même. Vous voyez, il coule là, sur la table, ça déborde. Bon. Maintenant, je vais prendre délicatement ce supraconducteur qui était là et je le mets là-dedans. Et là, je vais prendre un petit aimant, ça c'est un petit aimant, que je vais approcher du supraconducteur. Et je vais induire en faisant ça dans le supraconducteur des courants électriques. C'est la loi de l'induction. Ça va induire des courants électriques. Mais comme le supraconducteur a une résistance nulle, ces courants sont permanents. Et si je réussis l'expérience, qui n'est pas toujours le cas, je vais mettre mes lunettes quand même. Il ne faut pas mettre les doigts dans l'azote, là, vous voyez. Je vais amener délicatement ce petit aimant au-dessus du supraconducteur. Alors, ça a marché à bref instant. Vous n'avez rien vu. On va recommencer. On finit par y arriver. Sinon, j'ai une autre boîte, encore plus grosse. Alors, dans ce cas, il faut réchauffer. Il a pris des mauvais courants, vous voyez. Il a eu une mauvaise influence, là, j'ai pas bien mis les doigts. Je vais essayer avec ce gobelet qui est peut-être plus... Donc je refais la même chose, vous voyez, je remets un petit peu d'azote. Là, on remettra une petite goutte, si l'un de vous est un peu chaud, il pourra venir ici après. Donc là, je le réchauffe vite, là, parce que... Vous voyez ici, il y avait des courants qui s'étaient mal mis. Les courants n'avaient pas pris la bonne orientation. Je le réchauffe, là, pour le dissiper. Il redevient normal, quoi. Donc, là, on doit penser qu'il est bon. Je le remets là-dedans. Est-ce qu'il m'en reste assez? Je vais remettre une petite goutte. D'où l'expression, vous reprendrez bien une petite goutte, là. Bon, j'attends qu'il se refroidisse. Donc là, il bouillonne, même chose que tout à l'heure, pour la même raison. Il est en plein refroidissement. Donc dès qu'il aura fini de bouillir, c'est que ça commence à être à la bonne température. Où est-ce que j'ai mis mon petit aimant ? Bien, là, il doit être à peu près refroidi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Je vais essayer de le mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Vous voyez là, vous voyez qu'il flotte en l'air, un peu comme Je vais, parce que vous ne voyez pas bien au fond, là je vais vous montrer ici ce qui se passe. Vous voyez, vu de près, voilà ce qui se passe. Vous avez le supraconducteur qui est la plaque ronde qui se trouve en dessous et le petit aimant flotte en l'air en lévitation complète. Et cette expérience est impossible à faire avec un aimant normal. Si vous faites cette expérience avec un aimant, eh bien, vous n'aurez jamais un équilibre stable. Vous serez obligé de faire un système de confinement pour avoir l'équilibre. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir ? Eh bien, par exemple, vous avez tous entendu parler peut-être du train, du système de... Où est-ce que j'ai ça ? Le train japonais qui est un prototype de train à grande vitesse qui est en sustentation magnétique, en lévitation magnétique, exactement comme l'est ce petit objet, mais qui est un train complet. Alors, je vais refaire un coup, voir si j'arrive à le faire tenir. Ma boîte est légèrement en pente. Voilà. Est-ce que vous voyez ici, vous voyez là le... Et alors, vous allez voir, je vais descendre cette feuille de papier. Alors, vous voyez qu'il est en lévitation complète. Je vais le remuer un peu. Et je vais passer une feuille de papier entre le supraconducteur et le petit aimant en lévitation. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé mon temps. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur le professeur, vous avez expliqué la conductivité des solides, mais je crois que la théorie que vous donnez s'applique aux solides cristallins. Comment peut-on expliquer que les amorphes soient des isolants ?
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, toute l'explication que j'ai donnée sur les mécanismes liés à l'effet Joule, à la résistance, au libre parcours moyen, c'était lié à l'existence de défauts dans la périodicité du système, donc ça ne s'appliquait, strictement parlant, qu'au système parfait cristallin. Alors comment expliquer le comportement des matériaux amorphes ou des matériaux mixtes, disons, il y a toute une catégorie. Les modèles sont beaucoup plus difficiles à faire. Comme vous imaginez, la science progresse par modèle, de systèmes idéaux à des systèmes réels. La réalité est souvent beaucoup plus compliquée que le modèle de base. Dans le cas des structures amorphes, on arrive à avoir des représentations qui ne sont pas trop mauvaises, je dis bien des représentations pas trop mauvaises, en s'appuyant sur le modèle parfait périodique. Comment ? Eh bien, vous vous rappelez que on a vu que la bande, on a une bande ici comme ça, on a une autre bande. Quand on représentait les énergies, on avait une structure parfaite de ce genre, avec un niveau ici EV parfaitement défini, un niveau ici EC parfaitement défini. Et tout le modèle était basé là-dessus. Quand on va avoir un matériau amorphe ou un matériau semi-cristallin, qu'est-ce qui va se passer ? À courte distance, les atomes ne sont pas trop mal répartis. Autrement dit, à courte distance, ce qu'on vient de décrire n'est pas trop faux. Par contre, dès qu'on va jouer sur les grandes distances, alors ce ne sera plus vrai. Donc comment est-ce qu'on va passer d'un modèle idéal à un modèle amorphe? Eh bien, on va dire que selon les endroits, ce niveau EV n'est pas strictement là, mais il est peut-être là, là ou là. De même, ce niveau EC n'est pas strictement là, mais il est peut-être là, là ou là. Et au lieu d'avoir un niveau unique, on va avoir un continuum d'états possibles autour de EV, de même qu'ici, on va avoir un continuum d'états possibles autour de EC. Ça va évidemment énormément complexifier le problème, mais c'est un moyen de le résoudre dans un grand nombre de situations. Ça ne résout pas tout, hein, encore aujourd'hui.
Monsieur.
Je voudrais revenir sur le cas des supraconducteurs, disons, de dernière espèce. Est-ce qu'on a une théorie pour l'expliquer ?
Non. Alors la réponse est malheureusement très rapide. Autant les supraconducteurs anciens, si je peux dire. Les supraconducteurs anciens, c'est ceux avant 1986. Ceux-là, on a des modèles qui sont très bons, qui représentent merveilleusement ce qui se passe, malheureusement quand même, qui ne sont pas prédictifs. Ce sont des théories phénoménologiques. Autrement dit, elles expliquent tout, mais elles ne permettent pas de dire ce qu'il faudrait faire pour avoir un supraconducteur à très haute température. Dans les nouveaux supraconducteurs, c'est comme dans la nouvelle cuisine, depuis 1986, il y a eu un énorme enthousiasme sur ces nouveaux supraconducteurs. Il y a beaucoup de théories développées, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas une.
Merci.
Malheureusement, aujourd'hui.
Merci.
J'ai deux questions pratiques, s'il vous plaît. D'abord, au Japon, je ne savais pas qu'il faisait aussi froid au Japon pour qu'on puisse faire des trains comme ça à lévitation. Ça veut dire que les Japonais sont capables de produire des trains frigos. Enfin, je ne sais pas comment ils font pour produire des températures aussi basses.
Alors, vous voyez...
Deuxième question. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette propriété très refroidissante de l'azote pour refroidir, par exemple, tous les moteurs d'avions, de bateaux, de voitures surtout?
Alors, en ce qui concerne la première question, on peut regarder le transparent ici. Vous voyez ici, c'est un wagon, disons, autoporteur et automoteur du prototype du train japonais. Vous voyez qu'il est... ce n'est pas la voie ferrée qui est refroidie, parce que refroidir toute la voie ferrée serait trop coûteux. Donc c'est l'inverse qui est fait par rapport à ce que je décris là. Vous voyez, par rapport à l'expérience que j'ai faite ici, c'est l'inverse qui est fait là. La voie ferrée est à température normale. Par contre, c'est dans le wagon lui-même qu'il y a le réfrigérateur. Donc, vous avez tout à fait raison que s'il fallait fonctionner à moins 200 degrés dans le monde extérieur, ce serait désespéré. Là, on limite la basse température à un réfrigérateur dans le wagon. En ce qui concerne l'azote liquide, alors c'est un produit, vous avez raison de dire qu'il peut être utilisé industriellement, il l'est de façon considérable. Vous voyez que c'est un produit très facile, là, il se transporte dans des bouteilles soit comme ça, très très courant. Il est utilisé par exemple en biologie, il est considérablement utilisé en biologie pour maintenir des organismes à basse température. Il y a même eu, vous avez peut-être lu, certains d'entre vous, ce vieux roman « L'homme à l'oreille cassée » où un homme rêvait de se faire congeler parce qu'il était malade. Pour attendre le jour où le traitement de sa maladie serait connu, on le décongélerait. Et il faisait ça dans l'azote et malheureusement, dans les manipulations, quelqu'un lui cassait l'oreille. Parce que évidemment, à cette température, même le caoutchouc est dur comme du cristal. Si je trempe un morceau de caoutchouc dans l'azote, je le tape sur la table, il éclate en 1000 morceaux. Donc des applications, oui, il y en a beaucoup. Alors, on utilise des fluides très basse température, par exemple dans la fusée Ariane, vous savez qu'on utilise des fluides cryogéniques, dits cryogéniques, bien sûr pas l'azote, mais l'oxygène. L'oxygène est un fluide qui ressemble énormément à ce fluide-là, qui est beaucoup plus dangereux évidemment que l'azote. L'azote est inerte, n'a pas de conséquences fâcheuses. L'oxygène est beaucoup plus dangereux puisqu'il va générer de l'oxygène gazeux dans l'ébullition, et cet oxygène gazeux va évidemment être capable d'activer le moindre feu naissant. Si vous approchez une cigarette d'oxygène liquide, ça devient un chalumeau. Parce que, évidemment, vous apportez de l'oxygène à la combustion en quantité très importante. Donc, des applications industrielles, oui, tout à fait.
Oui,
Joseph
Chouchan.
Attendez, là.
Merci.
Voilà. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cet exposé. Et en ce qui concerne la dernière expérience, j'aimerais savoir pourquoi l'aimant reste en suspension et ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est dû à une différence de température, aussi petite soit-elle, entre le métal, qui n'en est pas un, que vous avez mis à l'intérieur, ou à quoi ça peut être dû? Je vous remercie.
Oui, alors là aussi, c'est une très bonne question, parce que si vous faites la même chose avec deux aimants, ça ne tiendra jamais. Vous avez l'aimant de dessous et l'aimant du haut. Chaque fois que vous avez lâché, il va être projeté sur le côté, comme il le faisait d'ailleurs au début dans mes expériences ratées du début. Alors, quelle est la raison de cet équilibre? C'est que si on amène l'aimant, lorsqu'on approche l'aimant, on induit des champs magnétiques à l'intérieur du supraconducteur qui produisent des courants. Et ces petits courants, eux-mêmes, produisent des champs. Il se trouve que, du fait de l'absence totale de dissipation des courants induits, la répartition des courants correspond exactement à l'état d'équilibre dans lequel j'ai amené l'objet. Vous voyez, j'ai lutté entre guillemets contre la force magnétique. Elle est faible, hein, ce n'est pas un effort important. Mais vous avez remarqué d'ailleurs que je devais lutter pour pas qu'il saute. Bon, c'est une toute petite force. Néanmoins, j'ai apporté de l'énergie. Cette énergie a induit ces courants qui ont une répartition qui est conforme à ce que j'ai amené. Et du coup, quand je lâche le système, ça reste dans l'état. Contrairement à un aimant, où ce n'est pas vous qui induisez des courants par la force d'induction, mais simplement, c'est les deux champs qui se repoussent, et ce n'est clairement pas un état d'équilibre. Ici, vous voyez, vous avez induit une distribution de courants dans la matière qui constitue une espèce de petit berceau magnétique. Et vous avez remarqué que quand je remuais un peu la plaque, le petit aimant suivait le déplacement et il restait au centre de ce berceau magnétique.
On va prendre encore deux questions, monsieur, et puis en haut.
Première question, pourquoi les bandes interdites? Est-ce que ça résulte d'un constat empirique ou c'est bien expliqué par la théorie? Et deuxième question, est-ce qu'on peut calculer le parcours moyen des électrons, étant donné que vous avez déjà donné trois raisons pour ce parcours moyen? Est-ce qu'on peut quand même le calculer?
Alors, c'est deux questions très intéressantes. La première question, les bandes interdites, est-ce que c'est empirique ou est-ce que c'est théorique? Là, la réponse, elle est très claire. On sait le calculer parfaitement. Et je vais vous dire même, ce n'est pas très étonnant. Parce que on a fait l'hypothèse qu'on est dans un milieu périodique, sous réserve de la question qui a été posée ensuite, mais au moins au départ, on a fait l'hypothèse qu'on était dans un milieu très périodique. Eh bien, c'est une loi générale de la nature. Chaque fois qu'une onde se propage dans un milieu périodique, il apparaît des zones permises et des zones interdites. Et vous en avez des exemples dans la vie courante. Si vous prenez une onde lumineuse et que vous la faites arriver sur un réseau périodique de traits, par exemple, très fins, dessinés sur une surface, eh bien, vous allez avoir des franges d'interférence. Or, les franges d'interférence, qu'est-ce que c'est? C'est des zones où il y a de la lumière et des zones où il n'y en a pas. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. En utilisant la propriété qui a été découverte par le physicien Louis de Broglie, qu'on peut associer à chaque électron une onde ayant une certaine longueur d'onde, dite longueur d'onde de De Broglie. Autrement dit, l'électron qui se promène dans un solide périodique, il vit dans un monde périodique et il subit du coup toutes les lois générales de la physique qui s'appliquent aux lois périodiques. Ce qui explique ce phénomène. Je peux vous donner un autre exemple, peut-être plus proche de la réalité de la périodicité. Si vous prenez une onde radio, par exemple, une onde électromagnétique du style modulation de fréquence ou autre, si vous faites une petite cellule avec un condensateur, une résistance et une petite inductance, vous faites une petite cellule, et vous reproduisez cette cellule un grand nombre de fois, vous réalisez une structure périodique, non plus microscopique, mais sur votre table. Eh bien, si vous rentrez à l'entrée de votre système une onde de fréquence variable, vous constaterez que tout ne sort, toutes les fréquences ne sortent pas. Certaines sortent et certaines ne sortent pas. C'est à cause de la périodicité. Alors, ça m'amène peut-être, je prends encore une toute petite seconde pour vous décrire une application nouvelle de cette idée, c'est que vous voyez dans un matériau classique, le cuivre, le fer, n'importe quel solide, les atomes se rangent comme la nature les amène à se ranger pour minimiser l'énergie. Et donc on a une certaine périodicité, donc une certaine bande interdite. Mais vous voyez que, avec les moyens technologiques modernes qu'on a dans l'élaboration des semi-conducteurs, on est capable aujourd'hui de créer des structures périodiques non naturelles. On peut imposer des périodicités que la nature spontanément n'avait pas faites. Et donc on peut créer des matériaux qui ont des bandes interdites de distances différentes, d'écarts différents. D'où tout un ensemble de nouvelles applications, dont une que vous avez peut-être tous rencontrée, dans un lecteur de compact disque, vous savez qu'on a une diode laser. Eh bien, très souvent maintenant, les diodes laser sont faites en imposant une périodicité à des systèmes de ce genre. Artificiellement. Périodicité qui n'existait pas spontanément dans la nature. Alors, la deuxième question... Oui, alors ça aussi c'est une très bonne question parce que je vous ai décrit les plans atomiques sont distincts, disons, de l'ordre de l'angstrom. Vous êtes tous familiers avec l'angstrom, donc c'est un dixième de milliardième de mètre, 10 moins 10 mètres. Donc très petit, vous voyez, ça veut dire que sur un centimètre de long, on en met 100 millions de plans atomiques, 100 millions de plans sur un centimètre de long. Le libre parcours moyen, on sait le calculer et on sait le mesurer. Donc on a les deux approches possibles, calcul et mesure. Typiquement, dans un solide de mauvaise qualité, très mal cristallisé, il va être au minimum de 100 angstroms, 100 plans atomiques, ce qui est déjà extraordinaire. Ça veut dire qu'un électron est capable de passer 100 plans atomiques sans collision. Ça, c'est dans un solide banal. Dans un solide de haute qualité, ça peut monter jusqu'à des microns, des micromètres. Et dans un solide, qui est le solide qui, à ma connaissance, a le plus grand libre parcours moyen connu, aujourd'hui, qui est le gallium. Le gallium est un métal qui ressemble un peu à l'aluminium, qui est d'ailleurs un sous-produit de la purification de l'aluminium, qui est très utilisé maintenant dans l'industrie électronique, justement pour faire des têtes de lecture laser. Dans le gallium, alors c'est un métal, il est très étonnant, ils font son point de fusion, c'est dans les 30 et quelques degrés, je ne sais pas le chiffre exact. Mais si vous le touchez, si vous le tenez dans vos doigts, il fond. C'est comme du beurre. Ça fait un peu bizarre. C'est un métal, mais il ne faut pas le tenir dans les doigts. Il faut le tenir avec des pinces, sinon il fond à cause de la température du corps. Eh bien, le gallium, à cause de sa température de fusion basse, cristallise de manière merveilleuse parce qu'il est en recuit permanent. Quand on le conserve à température ambiante, par exemple à 20 degrés centigrades, c'est comme si on le recuisait en permanence. Et donc tous les plans atomiques qui avaient des petits défauts se mettent bien petit à petit. Et en se mettant bien, ça conduit à un nombre de défauts cristallographiques et chimiques extrêmement faible. Donc il suffit de baisser la température et on voit augmenter, baisser la résistance, augmenter le parcours moyen. Et je vais vous donner le chiffre auquel on arrive dans ce métal à basse température, qui est un chiffre absolument époustouflant. On arrive à un libre parcours moyen de l'ordre de 1 cm. Ce qui veut dire que dans ce solide, un électron est capable de franchir 100 millions de couches atomiques sans une seule collision. Ça vous montre, cet exemple, la qualité du modèle représentatif de ces systèmes.
Dernière question, monsieur.
Je voudrais savoir pourquoi, à l'heure qu'il est, la sustentation magnétique là, n'a pas relégué la roue au musée des Antiquités. Est-ce que ça tient à un problème de coût ou à des problèmes techniques? Quoi s'agit-il?
Oui, alors évidemment, c'est un rêve. Hein. C'est le rêve, comme vous pouvez imaginer, tous les gens qui ont essayé de faire des supraconducteurs haute température ont ce rêve, plusieurs autres. Hein. Là, on parle de la sustentation, mais imaginez ce que serait un monde sans effet Joule. Toutes ces lignes électriques, toutes les lignes à haute tension seraient supprimées, remplacées par des fils enterrés qui transporteraient le courant sans aucune dissipation. Il n'y aurait plus aucune dissipation. En France, simplement pour vous donner une idée, ce n'est pas tout à fait votre question, mais c'est pour montrer les enjeux. En France, on a une soixantaine de centrales électriques, un peu moins de 10% de l'énergie produite en France est utilisée à chauffer les fils, hein, en parasite, ce qui veut dire que 5 centrales électriques françaises ne travaillent que pour chauffer le réseau. Donc vous imaginez l'ampleur d'une découverte d'un supraconducteur haute température qui permettrait d'éviter tout ça. Alors dans le cas de la sustentation magnétique, c'est exactement le même enjeu. Les conséquences seraient colossales, mais il y a le problème de la basse température.
Merci.